Partie 2. L'Évangile. Chapitre 7. Qu'est-ce que l'Évangile? Il peut sembler étrange de poser cette question à cette étape. Nous venons de passer une bonne partie du temps à travers l'histoire de la Bible, l'histoire de la manière dont Dieu nous veut dans sa famille. Nous rejoignons cette famille en croyant à l'Évangile. J'ai découvert que beaucoup de gens qui vont à l'Église ne comprennent pas vraiment l'Évangile. Certains ne peuvent pas l'articuler. D'autres qui peuvent l'exprimer avec cohérence ont souvent de la difficulté à se soumettre à sa simplicité. Ils ont de la misère d'accepter qu'il soit tout simplement nécessaire de croire à l'Évangile pour la vie éternelle. Certains d'entre vous se demandent peut-être de quoi je parle. Je suis toutefois prêt à parier, par contre, qu'en expliquant ce que je veux dire, vous vous verrez vous-même ou quelqu'un d'autre que vous connaissez dans ce qui suit. Nous allons commencer en définissant l'Évangile. Je vais poser quelques questions en cours de route qui sont importantes de prendre en considération pour avoir plus de clarté. Nous avons aussi besoin de parler de ce que l'Évangile n'est pas. Quand nous allons arriver à cette partie de la conversation, vous allez voir ce que je veux dire par la difficulté que j'ai mentionnée. Qu'est-ce que l'Évangile? Il est assez facile de définir ce que le terme « Évangile » signifie. Le mot biblique « Évangile » se réfère au message du salut. Le mot en anglais « Gospel » est une traduction d'un mot grec, la langue d'origine du Nouveau Testament, qui se référait à une récompense donnée à quelqu'un qui amenait une bonne nouvelle. Par conséquent, le terme « Évangile » est identique avec « bonne nouvelle », la bonne nouvelle à propos du message du salut. Pensons-y. On pourrait ressentir que nous avons appris quelque chose. Je suppose que oui. Mais nous n'avons pas appris ce que nous devions savoir. C'est bien de pouvoir maintenant définir un terme. Mais en réalité, nous n'avons rien dit à propos du contenu du message du salut. Nous avons défini le terme « Évangile », mais pas ce que l'Évangile est en réalité. Alors, parlons de ce que l'Évangile signifie. Quel est le contenu de l'offre du salut de Dieu? Quels sont les détails de la bonne nouvelle? Et pourquoi est-ce une bonne nouvelle? Le mot apparaît presque 100 fois dans le Nouveau Testament, alors nous devrions donc être en mesure de le comprendre. L'apôtre Paul parle à propos du message de l'Évangile peut-être plus qu'aucun autre auteur du Nouveau Testament. Il utilise le mot « Évangile » pour le message qu'il a prêché au sujet de Jésus. Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. 1 Corinthiens 15, versets 1 à 4. Paul définit son message, l'Évangile, ailleurs. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu et qui concerne son Fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Romains 1, versets 1 à 5. Le contenu de l'Évangile, la bonne nouvelle, ressort clairement de ces passages. Voici les éléments. Dieu a envoyé son Fils, qui était issu de la postérité de David, comme étant l'homme Jésus-Christ, qui est mort pour nos péchés, qui a été enseveli et qui est ressuscité des morts. Ces éléments sont le contenu de la bonne nouvelle. Laissez-moi, de les décrire ici à nouveau à la lumière du cadre de l'histoire dont nous avons parlé plus tôt. Le Fils de Dieu est devenu un homme. Il a souffert et il est mort sur la croix pour que nos péchés ne nous gardent plus hors de la famille de Dieu. Il est ressuscité des morts pour que nous puissions également vaincre la mort et être avec son Père, notre Père, le seul vrai Dieu à jamais. Révisons cela de plus près. Si ceci est la bonne nouvelle, pourquoi est-elle bonne? Il y a plusieurs raisons. Elle est bonne parce que notre salut ne dépend pas de notre propre performance. On n'y voit rien à propos de votre incroyable parcours ou d'avoir un dossier sans tache dans ces passages. Le contenu de l'Évangile ne concerne pas ce que vous avez fait, ce que vous pourriez faire ou ce que vous devez faire. C'est à propos de ce que quelqu'un d'autre a fait pour vous. C'est une bonne nouvelle pour nous tous, car aucun d'entre nous n'est parfait. Aucun de nous ne plaît à Dieu tout le temps. Aucun d'entre nous n'est apte à vivre dans sa famille et à se faire appeler par son nom par nous-mêmes. Nous devons être rendus acceptables à Dieu. Le contenu de l'Évangile nous dit comment cela se passe. Remarquez que Paul a décrit son ministère consistant à annoncer la bonne nouvelle aux gens comme « amenés en son nom à l'obéissance de la foi ». Il voulait que ceux qui entendent son message s'accroche vite à ce qu'il a dit. Comment obéissez-vous à l'Évangile? En se baptisant? En donnant de l'argent? En ayant un bon comportement? En n'étant pas insensé? En aidant les pauvres? Ce sont toutes de bonnes choses, mais non. Dieu veut l'obéissance de la foi. Vous obéissez à l'Évangile en le croyant. Avez-vous également remarqué que Paul n'a pas dit « l'obéissance à la compréhension » ? Nous ne comprenons peut-être pas complètement le fait que Dieu devienne un homme en Jésus ou comment est-ce que la résurrection puisse se produire. C'est correct. Dieu ne demande pas que nous trouvions la solution à tout et de nous retourner vers lui pour faire un examen final. Il veut de la croyance. Comprendre pourquoi ces choses sont rationnelles peut attendre. Le contenu de l'Évangile est l'offre de Dieu de vous pardonner et de vous donner une place permanente dans sa famille. Son offre montre son amour et sa gentillesse. La Bible utilise parfois le mot « grâce » au lieu de ces termes. Puisqu'il n'y a pas plus grand pouvoir, Dieu n'a pas été contraint à l'offre. Personne ne lui tord le bras. Il vous offre le salut parce qu'il vous veut. Tout ce qu'il demande, c'est que vous croyiez. Cela est la bonne nouvelle de l'Évangile. Pourquoi avons-nous besoin de l'Évangile? Vous pourriez peut-être penser que j'ai répondu à cela. Je le fais en quelque sorte, au moins d'une manière détournée. Mais à la lumière de mon expérience dans les milieux chrétiens, je dois être direct. Pourquoi avons-nous besoin de l'Évangile? Parce que sans cela, nous n'avons aucun espoir de vivre éternellement avec Dieu. Aucun. Nous sommes séparés de Dieu à cause du péché. Croire à l'Évangile est le remède. La Bible décrit notre situation difficile de plusieurs manières. Jésus a dit qu'il était ici pour chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19, verset 10. Par nature, vous êtes morts par vos offenses et par vos péchés. Éphésiens 2, verset 1 et verset 5. Et sans force. Romains 5, verset 6. Nous étions étrangers à la vie de Dieu. Éphésiens 4, verset 18. Et étrangers envers lui. Colossiens 1, verset 21. Car nous étions ses ennemis. Romains 5, verset 10. Ce n'est pas une belle image. L'histoire biblique que nous avons parcourue explique pourquoi nous sommes ce que nous sommes. Nous ne sommes pas nés dans la famille de Dieu. Nous sommes étrangers. Pourtant, Dieu nous veut dans la famille. Dépourvus de la nature de Dieu, nous abusons de notre intelligence et de notre liberté pour obtenir ce que nous voulons, et faisons souvent du mal aux autres en même temps. Nous vivons de manière autodestructrice. Quand nous ne représentons pas Dieu et que nous enfreignons ses lois, lorsque nous violons, manipulons et abusons les autres, nous péchons. Nous sommes, par nature, des pécheurs, égocentriques et rebelles, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23. Il est facile de lire cela et d'être déprimé ou d'être en colère, mais la bonne nouvelle de l'histoire de l'Évangile est que Dieu savait tout cela et nous aimait de toute façon. C'est également utile pour une raison qui ne vous est peut-être jamais venue à l'esprit. C'est ce qui rend l'Évangile tout à fait différent de l'enseignement de toute autre religion sur le salut. Toute autre religion nie que le péché est un problème ou dit que la solution réside dans la performance humaine. Répéter des rituels, réciter des prières, observer des jours de culte ou être bon. Pour être franc, seul l'Évangile est honnête à propos de la situation humaine et de l'incapacité humaine à faire quelque chose à ce sujet. D'autres religions, en fait, vous mentent. Elles vous disent que vous pouvez régler le problème de votre propre éloignement de Dieu ou que vous n'avez pas de problème. L'Évangile est la seule vérité qui vous dit que Dieu devait fournir la solution et l'a fait. L'Évangile est transparemment honnête. Elle vous dit la vérité même si ça fait mal. Cela démontre l'amour. Vous mentir n'est pas l'amour. Y a-t-il d'autres moyens d'être sauvé? Je viens plus ou moins de répondre à ceci, mais je veux aborder la question sous un angle différent. Dieu offre gratuitement le pardon, le salut et la vie éternelle avec lui. Ce n'est pas quelque chose qui est gagné ou mérité. Ce qui est requis, c'est la croyance ou la foi. Mettre sa confiance dans la promesse de Dieu et dans la plénitude de ce que Jésus a fait. Mais croire l'Évangile signifie ne pas croire d'autres enseignements ou d'autres idées sur le salut. La Bible dit qu'il n'y a pas d'autre moyen de salut. Pensez-y. Pourquoi Dieu le Père aurait-il envoyé son Fils, Jésus, mourir d'une mort aussi horrible sur la croix s'il y avait un autre moyen pour vous d'entrer le ciel? Le Fils devait devenir un homme et la mort devait être vaincue. Ceci était le seul moyen et croire au plan de Dieu était le seul moyen de salut. Il n'y a personne autre que Jésus qui puisse sauver. Acte 4, verset 12. Jésus lui-même l'a dit franchement. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, verset 6. Il n'y a pas d'ambiguïté là. Personne ne devient membre de la famille éternelle de Dieu si ce n'est par ce que Jésus a fait. On n'ajoute pas l'Évangile à d'autres croyances. C'est exclusif. Croire en l'Évangile, c'est se détourner des autres croyances. C'est un aspect de ce que la Bible appelle la repentance. Il y en a d'autres, mais il est préférable de les aborder dans la prochaine partie de notre conversation. Ce que l'Évangile n'est pas. Notre discussion sur le contenu de l'Évangile montre clairement que l'Évangile concerne ce que Jésus a accompli pour nous. La vie éternelle, le salut, est un cadeau offert à ceux qui croient en ce que Jésus a accompli pour nous. Notre culture tente de brouiller cette clarté. Elle offre des améliorations de soi ou une spiritualité vague comme remède. Mais la description biblique de l'Évangile va contre de telles choses. L'Évangile et le salut n'ont rien à voir avec l'illumination personnelle se regardant vers un voyage de la découverte de soi. L'Évangile ne consiste pas à explorer des idées d'un buffet spirituel. Ce sont des efforts et des activités intellectuelles ou psychologiques. Elles ne sont pas l'Évangile. Mais ces sortes d'évangiles alternatifs sont faciles à détecter et à éliminer. Il y a une difficulté encore bien plus aiguë qui empêche plusieurs personnes de s'appuyer sur la simplicité du salut que Dieu offre. J'ai suggéré plus tôt que beaucoup de personnes que vous pouvez rencontrer dans l'Église luttent avec l'Évangile. La raison est qu'elles sont prises dans le piège de la performance humaine. Vous, ou quelqu'un que vous connaissez, peut être capable de définir le terme « Évangile » et même peut-être le contenu de sa signification. Mais l'idée de croire ce que Jésus a fait pour vous est la somme de tout ce qui est nécessaire pour avoir la vie éternelle ne semble pas juste. Nous devons sûrement faire quelque chose. Sinon, comment pourrions-nous le mériter? Si vous comprenez l'histoire de la Bible et le contenu de l'Évangile, vous devez immédiatement comprendre que nous ne méritons pas ce que Dieu offre. C'est une lutte pour beaucoup de gens. Nous voulons nous sentir comme si nous avions gagné les bonnes choses que nous avons. Nous ne voulons pas être un cas de charité. On se sent mal d'avoir quelque chose de bien sans y avoir travaillé, au moins un peu. La culpabilité déforme la pensée de manière encore plus subtile. Cela peut paralyser notre habileté de voir l'Évangile comme le cadeau inconditionnel qu'il est. La culpabilité est ce qui pousse certaines personnes à justifier un cadeau en concluant qu'il est mérité à cause que quelque chose qu'elles ont fait pour le donneur du cadeau à un moment donné. S'ils ne peuvent pas se convaincre de cela, ils décident de faire quelque chose par la suite pour se sentir dignes du cadeau. La culpabilité nous aveugle à l'amour de Dieu qui est démontré dans l'Évangile. En fin de compte, nous devons comprendre à quel point cette pensée est égoïste. Cela peut sembler dur, mais écoutez-moi. Travailler fort pour faire croire à quelqu'un d'autre que vous avez de la valeur demande que vous vous concentriez sur vous-même. Vous ne pouvez pas vous concentrer sur quelqu'un d'autre quand l'objectif est de faire croire à une autre personne que vous êtes digne de leur attention ou de leur amour. Nous voulons nous sentir bien à propos de soi, c'est-à-dire, nous méritons légitimement quelque chose afin de ne pas prendre ce qui ne nous appartient pas. Nous voulons aussi que les autres ressentent la même chose à propos de nous, c'est-à-dire, nous voulons que les autres nous donnent quelque chose à cause de la façon dont nous les faisons sentir à propos de nous. L'Évangile élimine ceci et le met de côté. Cela nous expose, produisant une humilité ouverte. Il insiste sur le fait que l'accent doit être mis entièrement sur Dieu et Jésus. C'est la raison pour laquelle c'est une pilule difficile à avaler pour plusieurs. Cela ne nous laisse pas prendre aucun crédit. En fin de compte, l'Évangile ne se préoccupe aucunement de ce que vous faites, mais se préoccupe de tout ce que vous êtes déjà. Vous êtes humain. Vous êtes l'objet de l'amour et du plan de Dieu dès le début. Rien de tout cela nécessite une performance. C'est tout simplement tel quel. Puisque nous sommes pécheurs dans un monde déchu, nous sommes piégés dans la conviction que personne ne nous aimerait s'il nous connaissait vraiment au complet d'intérieur et d'extérieur. Par conséquent, nous ne pouvons pas imaginer que Dieu nous aime, car il n'y a rien à propos de nous qui puisse échapper son attention. Il connaît chaque pensée, chaque mot, chaque impulsion et chaque action. La culpabilité qui se crée en nous et la normalité de nos relations conditionnelles rendent difficile à accepter l'amour non filtré de Dieu pour nous dans l'Évangile. De notre point de vue, cela n'a aucun sens. Je devrais dire à ce point que je ne suggère pas que les personnes qui écoutent le vrai Évangile et l'acceptent, en toute sincérité, ne soient pas vraiment sauvées. Je crois honnêtement qu'elles croient et qu'elles sont dans la famille de Dieu. Ce que je décris est la vie interne qui déchire l'âme que beaucoup de ces croyants vivent encore. Leur culpabilité a transformé l'amour et la grâce de l'Évangile à une expérience axée sur la performance et le mérite. Ils commencent à se demander si Dieu les aime toujours, comme il l'a fait au moment où ils ont compris l'Évangile et y ont cru. Ils considèrent les péchés qu'ils commettent en tant que croyants comme des raisons pour que Dieu ne soit pas d'avis ou soit ambivalent envers eux. Ils sont convaincus qu'ils ne peuvent pas répondre aux attentes de Dieu et se demandent s'ils ont assez cru, ou peut-être même pas du tout quand ils pensaient que oui. La triste vérité est que de nombreux véritables chrétiens vivent une vie tourmentée et perdante, non pas à cause de l'Évangile, mais à cause de la façon dont leur culpabilité a faussé la clarté de l'Évangile. Quand ils lisent les Écritures, ils ne voient que leur péché et leur échec. Chaque sermon est un acte d'accusation, et honte à ces prédicateurs qui prêchent avec cette intention principale. La merveille spectaculaire de l'histoire se perd et elle est oubliée. Le salut n'est pas à propos de la performance. Cela n'a jamais été ainsi, ne le sera jamais et ne pourra jamais l'être. Nous ne pouvons rien faire pour nous mettre au niveau de Dieu, pour nous rendre dignes de sa présence. La nature parfaite de Dieu est manquante en nous. Nous sommes comme Dieu, créés pour l'imager. Mais, par définition, nous sommes moindres que Dieu, et Dieu le sait. C'est pour cela que sa solution était Jésus, et non vous. Il est absurde de penser que nous pouvons combler cet écart ou remplir ce vide en faisant ceci ou en faisant pas cela. Dieu n'apprend jamais rien de nouveau sur vous lorsque vous échouez. Il vous a toujours connu et vous a toujours aimé là où vous étiez et là où vous êtes. Romains 5, verset 8 le dit à son meilleur. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Avez-vous compris cela? Lorsque nous étions encore des pécheurs, vous n'avez pas à performer à un niveau suffisant afin que Dieu puisse vous aimer. Si vous y réfléchissez, c'est une très bonne nouvelle. Dieu n'est jamais déçu de vous parce qu'il n'a pas de fausse attente à l'égard de votre comportement. Dieu vous a toujours aimé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Nous pouvons résumer ceci en deux pensées. Le salut, appartenance à la famille de Dieu, ne peut pas être gagné. Il ne peut qu'être reçu par la foi, croyance. Dieu l'offre parce qu'il est miséricordieux et parce qu'il aime. Il n'y a pas d'autre raison, et il ne peut y en avoir.